Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Et pour commencer, vous vouliez revenir sur un sujet qui fait froid dans le dos. C'était il y a quelques jours à l'antenne de France Inter. Écoutez Claire Hédon, la défenseure des droits.
D'abord, je voudrais bien qu'on définisse de quoi on parle quand on parle de la santé mentale des enfants. En fait, on parle d'un état de bien-être qui permet à l'enfant de se développer correctement dans de bonnes conditions. On le comprend très bien, un enfant qui va pas bien aura des difficultés d'apprentissage, fera un adulte qui va pas bien dans une société qui ira pas bien. Et il y a effectivement urgence à agir parce que la crise sanitaire que nous traversons a aggravé la situation.
C'était donc dans un rapport publié mercredi, Claire Hédon, la défenseure des droits, dévoilait plusieurs recommandations pour aider les enfants et aider à améliorer leur santé mentale. Elle alertait sur le manque de structures en pédopsychiatrie, sur la nécessité de mieux prévenir, de mieux détecter les troubles chez les plus petits. Et elle a pointé les effets du confinement, déconfinement, la dépendance aux écrans, les conséquences du harcèlement scolaire. Natacha, pourquoi vouliez-vous revenir sur ce sujet-là en particulier aujourd'hui ?
Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, parce que ça a été une évidence aussi bien pour Gilles que pour moi, que c'est un sujet absolument fondamental et où les réponses, pour l'instant, peinent à venir. Quand on a 25 départements où il n'y a pas de pédopsychiatre, où on ne peut pas faire suivre des enfants. Aujourd'hui, le délai d'attente est tel que c'est véritablement une perte de chance. Et je crois surtout que quand on regarde un petit peu la façon dont le Covid a amplifié des phénomènes qui étaient sous-jacents, il faut s'interroger en effet sur la façon dont on a géré, j'allais dire politiquement, au sens large, les choses. C'est-à-dire, quel message a-t-on voulu faire passer aux enfants ? Quand on voit des slogans diffusés sur les gestes barrières, « Je mets mon masque, je ne tue pas papy et mamie », je ne suis pas certaine que ça fasse du bien aux enfants.
En quel sens ?
Bah, les accuser d'aller tuer papy et mamie, je pense que c'est pas tout à fait une bonne idée de les accuser de risquer de tuer leurs grands-parents. Donc, je pense qu'on aurait peut-être pu réfléchir davantage à ce qu'on faisait peser sur eux. J'ajoute une chose, et on va y revenir, enfin, on va creuser cette question-là sans doute, mais le rapport des enfants aux écrans, bien sûr, a toujours été quelque chose qu'il fallait observer. Là, moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont l'éducation nationale entretient une ambivalence absolument majeure sur cette question qui amplifie les phénomènes d'addiction aux écrans que le Covid lui-même a renforcé. C'est-à-dire que l'éducation nationale ne cesse de maintenir des injonctions contradictoires, notamment sur le fait que ce serait formidable d'avoir accès aux écrans, qu'il faut que les enfants soient dessus, et on voit en permanence cette façon presque de forcer les parents à mettre des écrans dans les mains de leurs enfants, tout en déplorant ensuite qu'il y ait des addictions aux écrans. C'est quelque chose là aussi sur lequel il faudrait une réflexion beaucoup plus large des pouvoirs publics.
Gilles Finkelstein.
C'est un sujet qui est souvent occulté et qui a été cette semaine vraiment dans l'actualité, puisqu'il y a eu non seulement le rapport de la défenseure des droits Claire Hédon, il y a eu un projet de loi contre la prostitution des mineurs, il y a eu la journée contre le harcèlement, et je voudrais moi apporter une pièce supplémentaire à ce dossier, au sens où la Fondation Jean Jaurès, avec la chaire Innovation et Santé de l'ESSEC, a soutenu une étude qui a été lancée par Notre Avenir à Tous et par Hélène Roch, dont l'originalité est double. D'une part, c'est de se concentrer sur une partie de cette population.
On peut dire les préadolescents.
Les préadolescents, ceux qui ont entre 11 et 15 ans, dont on s'occupe assez peu parce qu'on considère que la crise d'adolescence, c'est un passage normal, et dont l'originalité, la deuxième originalité, est l'objet. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé à leurs opinions, mais à leur état, et notamment à leur état de santé. Et la première conclusion est qui,
et l'état de santé mentale, parce que les chiffres sont hallucinants quand on voit l'étude.
L'état de santé mentale, et le premier chiffre moi qui m'a vraiment glacé, c'est que on voit à quel point la santé des adolescents est mauvaise et est alarmante. Je vous donne juste deux chiffres. 10% de ces adolescents entre 11 et 15 ans ont déclaré avoir eu des idées suicidaires dans les 15 jours précédant l'enquête. Dans les 15 jours précédant l'enquête. Et 25% du total de ces jeunes, donc qui est un échantillon représentatif des 11 à 15 ans, 25% ont une suspicion de troubles anxieux généralisés. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont suffisamment de symptômes dans des questions qui sont des tests précliniques. Ils ont suffisamment de symptômes pour avoir besoin d'une évaluation clinique psychiatrique. 25%. Donc, ces chiffres-là sont saisissants et ils sont d'autant plus saisissants qu'ils vont mal, mais qu'ils ont le sentiment, pour beaucoup d'entre eux, d'aller bien. 60% de ces 25% de ceux qui ont besoin de cette évaluation, 60% disent « je vais bien » ou même « je vais très bien ». Donc comme s'ils avaient intériorisé que en fait tout ça n'était pas si grave. Donc c'est vraiment un signal d'alarme. Et puis le deuxième enseignement, et je rebondis sur ce que disait Natacha à l'instant, sur leur rapport à l'information. On voit à quel point les jeunes en général, ces adolescents en général, sont envahis par les écrans. Le total télévision, ordinateur, portable, 6h42 par jour, en moyenne.
6h42 par jour pour un gamin de 11 ans.
Mais il y a pire. Chez ceux qui ne vont pas bien, ils se replient davantage encore. Sur ces écrans, on est à 8h42 par jour. C'est-à-dire qu'ils sont engloutis là-dedans. Et je termine par là, et c'est ça, un autre élément qui est très alarmant, c'est on voit à quel point ils ne sont pas seulement dans ce qu'on a appelé l'éco-anxiété, c'est-à-dire la peur
de la fin du monde.
C'est dans l'info-anxiété, ce que Hélène Roque appelle l'info-anxiété, c'est-à-dire que l'information les angoisse énormément, et on a, par exemple, la question de la violence sur les enfants est au même niveau, et c'est logique. Par exemple, il y a eu le rapport Sauvé, comment ils reçoivent tout ça? Anxiété très forte.
Et c'est parfaitement normal. C'est-à-dire, pour ma part, j'écoute France Inter tous les matins, au petit déjeuner avec les enfants, et je suis obligée de parler avec eux, parce que, par exemple, hier, il y avait en effet encore un reportage, une prise de parole sur les violences sexuelles contre les enfants. Et de fait, c'est un arbitrage compliqué quand on est parent. Il faut absolument revenir dessus pour ne pas laisser un enfant seul avec ce qu'il a entendu, mais on peut pas toujours et on fait ce qu'on peut. Alors en même temps,
ça
faut-il couper la radio, bien sûr. Alors les deux, je pense. Le problème est que beaucoup de familles sont désemparées et n'ont pas la possibilité, les moyens de gérer tout cela. Et l'école est encore plus désemparée. Et là, c'est plus problématique parce que ça devrait être son travail. Mais de fait, il y a énormément de professeurs qui alertent sur cela en disant à quel point, justement, ce lien entre la famille et les écoles et entre les familles et l'école est complexe, mais à quel point ils ont l'impression que des familles ne maîtrisent pas. Sur un point, par exemple, des professeurs alertent sur le fait que leurs élèves de 6e, donc on parle d'enfants de 11 ans, ont accès par des boucles Snapchat à des images, mais d'une violence, mais inimaginable. Et en fait, les parents ne savent absolument pas ce que leurs enfants voient comme image en termes de violence, en termes de pornographie. Tout le problème est que beaucoup de parents ont intégré le fait que c'est comme ça et que non, ils n'ont aucune prise sur ce que regardent leurs enfants. Sauf qu'on peut se poser la question déjà de l'utilité d'un smartphone pour un enfant de 10-11 ans. Ça me semblerait légitime, mais c'est un travail qui doit être fait, que l'ensemble de la société doit mettre en avant. Tout le monde doit se poser la question de savoir comment on, non pas comment on interdit, il ne s'agit pas d'interdire, mais de construire les armes et de sortir de cette idée de fatalité, comme si c'était comme ça et qu'on ne pouvait pas faire autrement.
Et c'est vrai qu'on voit avec votre petit carnet, votre stylo, on a l'impression que vous êtes une espèce en voie de disparition, alors que Gilles, lui, est totalement accro à son iPad et à des écrans qui lui permettent de compulser des datas à n'en plus finir.
Oui, mais comme vous le constatez chaque semaine, mes petites notes sont écrites pour préparer l'émission sur du papier, avec un crayon à papier.
D'un mot,
Natacha a raison de souligner le rôle, la responsabilité des familles, des institutions en général et pas seulement de l'école. Il faut prendre cette enquête et les autres vraiment comme un signal d'alarme, et il faut surtout, je crois que c'est en tout cas l'engagement que moi je prends, en assurer le suivi en refaisant l'année prochaine une enquête du même type. Et le dernier mot que je voudrais ajouter, tout dernier, c'est qu'il faut mesurer quelque chose qui pour nous est naturel, qui est l'environnement dans lequel nous sommes depuis 15 ans, mais qui est le seul environnement dans lequel ces adolescents ont évolué. Depuis qu'ils sont nés, crise de la dette, faillite du monde, crise terroriste, On assassine dans les salles de spectacle, on assassine dans la rue. Crise sanitaire, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ils peuvent aller tuer leurs parents et ou leurs grands-parents. Crise environnementale, c'est ça l'environnement dans lequel ils ont vécu, et je pense qu'on a sous-estimé l'effet que cela avait.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Le régime de Loukachenko instrumentalise de manière inhumaine, et je le dis ici éhonté, les flux migratoires pour tenter de déstabiliser et de désunir l'Union européenne. C'est intolérable et inacceptable. Il nous faut réaffirmer avec force notre pleine et entière solidarité à l'égard de la Pologne, comme de la Lituanie et de la Lettonie plus tôt. Il nous faut aider en plein appui des demandes des autorités polonaises à la protection de la frontière extérieure de l'Union. Aider aussi à l'accueil des personnes en besoin de protection. Maintenir une pression très forte sur les autorités biélorusses. Cela doit ouvrir la voie, Monsieur le Président, à un sixième paquet de sanctions.
Le Premier ministre Jean Castex était lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce mardi. Et alors que la crise à la frontière polonaise s'éternise, 4000 migrants, mais des hommes, des femmes, des enfants, le mot migrant masque la réalité très simple de ceux qui vivent un enfer. Ils sont toujours bloqués dans le froid côté biélorusse. Et Jean Castex accusait la Biélorussie, vous l'entendiez, d'instrumentaliser de manière inhumaine et éhontée les flux migratoires. La crise n'en finit pas. Gilles, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'Union européenne et de notre rapport à ces réfugiés?
La crise n'en finit pas, mais elle n'est pas exactement de la même nature que lorsque nous en avions parlé exactement la semaine dernière ici même. On a vécu une drôle de semaine qui est à la fois une semaine de désescalade. Les dirigeants se sont parlé. Pour partie, ils ont agi. On a vu que la crise ne s'est pas déplacée comme elle aurait pu le faire sur d'autres terrains, et notamment Vladimir Poutine a immédiatement dit que, contrairement aux menaces de Loukachenko, la question des coupures de gaz, des tuyaux, ne se posait évidemment pas. Et même sur le terrain migratoire, elle ne s'est pas amplifiée au sens où les flux se sont pour une grande partie tarie, parce que il n'y a plus de vol d'un certain nombre de pays, les Émirats arabes, la Turquie, l'Irak, le Liban, vers la Biélorussie. Donc, c'est malgré tout une semaine dans laquelle les choses se sont un peu améliorées. Et d'un autre côté, c'est pour ça que je pense qu'on a tous des sentiments très mitigés, c'est une semaine d'indignation face à, et je crois que Jean Castex avait raison de le souligner, l'indignité biélorusse qui a fait venir ces migrants, mais qui, oui, sont des hommes, des femmes, des enfants qui vivent dans le froid et dans la forêt. Et ils vont jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'ils les utilisent comme des armes, et ils considèrent ces armes comme des objets et non pas comme des êtres humains. Indignation devant les hésitations françaises. On a vu que par rapport à l'idée de la construction du mur polonais, il y avait eu entre les positions de Gabriel Attal qui disait on n'a pas de leçon à donner aux Polonais et celle de Clément Beaune qui disait l'Europe à laquelle je crois n'est pas celle qui hérisse des barbelés. Et enfin, une tétanie européenne collective face à ce sujet, une nouvelle fois, alors même que, en l'occurrence, on est dans une crise qui n'a rien à voir avec celle de 2015, dans laquelle il y avait des centaines et des centaines de milliers de migrants. Là, il y a quelques milliers de migrants, et je crois qu'on aurait pu s'organiser conformément à ce que sont les valeurs de l'Europe pour qu'ils aient un traitement plus humain, et conformément à ce que sont nos règles de droit, au moins pour qu'on examine leur situation.
Natacha.
Je pense que Gilles a tout à fait bien résumé ce que nous avons vécu cette semaine, avec également son lot de fausses informations, ou en tout cas de manipulation, notamment par exemple de la part d'Alexandre Loukachenko sur le rôle de l'Allemagne et les discussions entre l'Allemagne et la Biélorussie. Tout cela nous montre une chose, c'est qu'en effet le cynisme est toujours là. C'est-à-dire que même s'il y a eu une désescalade, en effet, même si Vladimir Poutine ne cesse de souffler le chaud et le froid, il y a de toute façon une forme de cynisme qui consiste surtout à essayer de diviser les Européens, et c'est tellement facile. Donc là, en l'occurrence, la fausse information de la Biélorussie, c'est consistait à dire que l'Allemagne acceptait d'accueillir 2000 migrants, les autres seraient raccompagnés chez eux, ce qui crée une espèce de défiance de la part de la Pologne vis-à-vis de l'Allemagne, et l'idée qu'on repartait sur la mécanique de 2015. Angela Merkel a immédiatement démenti, mais ça nous raconte quoi, cette histoire? Ça nous raconte, premièrement, que Vladimir Poutine, qui malgré tout est derrière cela, est dans une phase de tension volontaire en Biélorussie, en Ukraine également. C'est-à-dire que c'est un flux et un reflux, et là actuellement en Ukraine, les mouvements de troupes aux frontières sont une façon d'expliquer que le statu quo ne lui convient pas, et son seul but étant d'avoir à ses frontières, un peu partout, des régimes qui lui permettent un tampon vis-à-vis de l'OTAN. Et il ne lâchera pas tant qu'il n'aura pas ça. Face à cela, on a une Union européenne qui a des avis divergents, et toute la question, Gilles disait, il faut un accueil humain et digne de nos valeurs. Oui, c'est vrai à ceci près que la question est de savoir quel message envoie l'Union européenne. C'est pour ça, je vais vous dire une chose, je pense que...
L'Union européenne ou la Pologne ?
Je pense qu'en matière migratoire, comme dans beaucoup de domaines, il doit y avoir, quand on fait de la politique, une différence entre ce qu'on affiche et le message qu'on envoie, notamment à des adversaires, parce que il y a des adversaires, c'est la Biélorussie, c'est Poutine, et c'est Erdogan, et c'est tous ceux qui aujourd'hui ont décidé d'utiliser les migrants comme une arme, et de la façon la plus ignoble qui soit. Donc il y a une différence entre le message qu'on envoie à ces gens, et ce que l'on fait réellement. En politique, il ne faut pas toujours dire ce qu'on fait. C'est très important.
Ce
n'est pas du cynisme de faire ça. Je pense qu'il y a eu une période.
Le discours polonais qui est un discours du gouvernement ultra-conservateur, très anti-immigration. Et on peut pointer une forme de paradoxe pour un pays qui a vu beaucoup de ses citoyens migrer eux-mêmes.
Non, mais ça,
pour
c'est
aller
classique.
Avenir ailleurs.
Et toute l'Europe. L'Europe aussi a été une terre d'émigration à un moment. Le problème n'est pas là. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où l'immigration est devenue une arme pour certains dictateurs. La question est de savoir comment l'Europe ne se met pas dans les mains de ces cyniques, ce qui amplifierait la venue de gens qui vont se retrouver dans des situations abominables comme les migrants qui sont à la frontière biélorusse. Donc comment on fait pour pas amplifier ce phénomène ? Eh bien, on affiche une politique qui est une politique de fermeté, ce qui n'empêche pas ensuite de mettre en place une politique humaine, mais qui n'est pas la politique officielle. Je pense qu'il faut absolument faire cela plutôt que ce que nous faisons actuellement, qui est exactement l'inverse. C'est-à-dire l'affichage d'une espèce d'impuissance, des grands discours de fermeté qu'on ne tient pas parce qu'on ne se donne pas les moyens de contrôler les frontières et parce qu'on est en permanence ambivalent. Mais le résultat, il est tout aussi ignoble quand on refuse de laisser accoster des bateaux en Méditerranée, quand on se bat pour laisser les migrants dans des endroits immondes à la charge des pays frontaliers comme la Grèce, l'Italie, je vois pas ce qu'on y gagne.
Gilles,
je crois, première chose, il faut que l'Europe s'affirme. Et vous parliez, Natacha, du cynisme qui est toujours là. Oui, l'Europe a des adversaires. Oui, le monde est, y compris nos voisins, ne sont pas que des amis, et c'est s'affirmer, fermeté à la fois par rapport à la Biélorussie et donc aller jusqu'au bout des sanctions, fermeté vis-à-vis de la Russie, au moment même, on n'a pas souligné quand même, où cette même semaine, il y a des mouvements de troupes à la frontière russo-ukrainienne, au moment où la même semaine, il y a la destruction d'un satellite par un missile direct russe. Donc, fermeté. Et puis, deuxième élément, parce que tout cela nous fragilise, c'est nous rassembler en tant qu'Européens en traitant la question de l'immigration. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, c'est vrai de la question de la frontière, c'est vrai de la question de l'asile. Donc peut-être ne faut-il pas toujours dire ce qu'on fait, mais en revanche, il faut toujours faire ce qu'on dit. Et donc, je crois que hein, l'Europe a, voilà, doit faire ce qu'elle dit.
L'Europe, ou le groupe de Visegrad auquel appartient la Pologne avec la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie, qui était pour une politique de l'immigration très dure et qui refusait le principe de solidarité entre les 27 ou les 28, puisque la question se posait alors que la Grande-Bretagne était encore membre de l'Union européenne. On passe au dernier sujet.
Le grand face-à-face, le duel.
Et si la vie démocratique était aussi une question de rythme et de calendrier, l'enjeu dépasse le cercle étroit des juristes et de quelques passionnés, des spécialistes de la Constitution. Modifier le calendrier électoral pour mettre fin au cercle vicieux de l'abstention et de la défiance. Et si nous votions le même jour pour l'élection présidentielle et pour les législatives, c'est ce que propose un jeune chercheur en sciences politiques. Il est directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, Antoine Bristier. Publié une tribune dans Le Monde où il faisait cette proposition. Plutôt que de commencer par vous, Gilles, Natacha, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de fusionner présidentielle et législative pour aboutir à un meilleur fonctionnement, une meilleure respiration démocratique ?
Alors, je vais vous dire, je pense que la question institutionnelle est sous-traitée et qu'elle est pourtant extrêmement importante, mais on la fuit avec souvent avec cette idée que ça ennuie tout le monde, que c'est complexe, etc. Je pense que nous arrivons au bout, j'allais dire, de la déstabilisation et du massacre de la Ve République. C'est-à-dire, la Ve République en elle-même a été utile, elle a répondu à une situation et elle a réglé cette situation au moment où elle a été fondée. Petit à petit, l'époque a changé et en plus, on a déstabilisé la Ve République. Le meilleur exemple étant évidemment le quinquennat avec inversion du calendrier. Je rappelle qu'à l'époque, les rares qui disaient que c'était une stupidité se faisaient traiter de ringards. C'était moderne parce que le quinquennat par rapport au septennat, ça allait plus vite. Bon, on n'a pas réfléchi qu'en faisant ça, on amplifiait ce phénomène de disparition totale du Parlement. Donc, La réponse qui est apportée par cette tribune, en revanche, me semble insuffisante. Pourquoi ? Parce que le fait de les faire le même jour, législative et présidentielle, ne supprimera pas le problème que nous avons, qui est le fait que le calendrier du quinquennat fait que la durée d'une législature est la même que la durée d'un mandat présidentiel. Ce qui donne au président la possibilité d'avoir une majorité qui est extrêmement solide du fait du scrutin uninominal à deux tours, qui n'est pas forcément représentatif du pays, et qui est indéboulonnable. Donc, il me semble que ce qu'il faut rétablir, c'est avant tout la différence entre la durée du mandat présidentiel et la durée du mandat législatif pour rendre au Parlement son indépendance et son existence.
Gilles, avant de passer au débat.
Oui, effectivement, la question se pose parce qu'il y a eu le quinquennat et parce qu'il y a eu l'inversion ou le rétablissement de ce calendrier avec des élections présidentielles qui précèdent les élections législatives. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui une légitimité de l'Assemblée nationale qui est une légitimité dérivée. C'est-à-dire, c'est l'élection qui arrive après et qui est simplement un vote de confirmation de ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle et qu'on a une Assemblée qui a une légitimité affaiblie parce que la baisse de participation entre les deux scrutins est considérable. Ça a atteint 30 points en 2017. D'où un déséquilibre des pouvoirs qui est accentué. L'idée que défend Antoine Bristiel, après d'autres, est de faire coïncider les deux élections. Et c'est intéressant mais, simplement de réfléchir à ce que pourraient être les conséquences d'une telle réforme. Il y a un avantage technique qui est incontestable, c'est que c'est simple comme réforme, c'est compréhensible par les Français, c'est facile à faire, il faut juste une loi. Il y a un deuxième avantage, on a un bénéfice démocratique qui est certain, c'est qu'il y aura une participation plus élevée aux élections législatives, et donc plus de légitimité. Il y a un effet juridique qui est inattendu, dont personne n'a parlé, c'est que ça veut dire, si on fait ça, que s'il y a une démission du président, ou s'il y a une dissolution de l'Assemblée, il faut revoter pour les deux. Hein, si on veut garder la coïncidence des élections. Et enfin, je termine par là, et c'est ça qui est un peu vertigineux, et moi je pense qu'il mérite un débat plus approfondi, c'est quels seraient les effets politiques d'une telle réforme. En réalité, on voterait à l'aveugle. On voterait en même temps pour les deux scrutins. Sans doute, y aurait-il moins de risques d'avoir une majorité absolue pour le président qui vient d'être élu, plus de coalition, peut-être même plus de cohabitation, mais les effets politiques sont très incertains, et donc je trouve que ça mérite un débat qui est approfondi, et si on veut aller jusqu'au bout du débat, c'est est-ce qu'il faut même aller plus loin avec un vrai régime présidentiel.
Et on aura l'occasion évidemment de revenir sur ces questions. On va continuer à parler de démocratie dans le grand face-à-face.